Juste avant de se lancer ce matin dans un peu notre discussion, qu'on va ouvrir la parole de Dieu ensemble pour parler d'un peu de cette paix intérieure, on va aller à celui qui est la source de cette paix-là. On va prier que le Seigneur nous parle ce matin et qu'il puisse vraiment nous fortifier et nous encourager par sa parole. Donc, prions le Seigneur. Jésus, on vient à toi ce matin parce que ta parole est un trésor inépuisable. Ta parole est un trésor, Seigneur, inépuisable de vérités qui peuvent transformer notre âme. Seigneur Dieu, sans toi, on ne peut rien faire. Nous sommes les branches, tu es le tronc. Et Seigneur Dieu, c'est par tes racines qu'on peut être nourri. C'est par toi, Seigneur, qu'on peut avoir la force, la paix et l'amour. Seigneur Dieu, c'est seulement par toi qu'on peut grandir dans notre foi. Seigneur Jésus, on t'a pris ce matin de nous parler d'une façon spéciale, peut-être à travers les passages, à travers, Seigneur Dieu, l'encouragement que tu peux nous donner par ta parole, à travers peut-être parfois la correction que tu vas amener dans certains de nos cœurs. Et Seigneur Jésus, ma prière ce matin, c'est que toute personne ici puisse s'accrocher encore plus à toi. Qu'il puisse combattre, Seigneur Dieu, avec les armes que tu nous donnes. Et Jésus, qu'on puisse partager encore plus la chose merveilleuse que tu fais pour nous. Ton œuvre de rédemption à la croix. Et Seigneur Dieu, ce matin, on va tourner vers ta parole. On te demande de la bénir dans nos cœurs. On te demande de nous parler par ton Saint-Esprit. Et on te demande, Seigneur Dieu, de bénir notre temps ensemble. Et ces choses, on les prie dans le nom de Jésus. Amen. Donc, ce matin, j'ai la lourde tâche de vous parler un peu de la paix intérieure. Et quand j'ai lu mon thème, j'ai souri. Je ne dis pas dans la Bible, ça. Parce que la paix intérieure, ça sonne un peu ésotérique, hein? Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, quand j'entends ça, j'ai une image de quelqu'un qui médite beaucoup et qui, là, cherche à amener ou se débarrasser de tous ses problèmes et ses pensées. Et là, il travaille fort pour amener un peu son esprit dans un vide total, communément appelé être un homme. Pourquoi il y a juste des femmes qui rient? Mais non, quand on se met à se questionner sur la paix intérieure, la paix de Dieu, on peut trouver plein de façons, plein d'approches différentes. Et j'ai pris le temps de demander à mon ami Larousse de me dire c'est quoi la paix. Et il y avait comme plein de définitions, je vous les lis rapidement. Le mot paix veut dire l'état d'un pays ou des nations qui ne sont pas en guerre. C'est aussi une cessation de l'état de guerre entre deux ou plusieurs belligérants. Ça veut dire ennemis. C'est un état de concorde, d'accord entre les citoyens et les groupes sociaux, une absence de lutte sociale, de troubles sociaux. C'est aussi un calme ou un ordre. C'est aussi l'état d'un groupe de personnes qui ne sont pas en querelle ou en conflit. C'est un état de tranquillité, de repos chez quelqu'un. C'est l'état de quelqu'un qui jouit d'un calme intérieur, d'une tranquillité d'âme. C'est aussi l'absence d'agitation ou de bruit dans un lieu. Et là, quand on parle un peu de la paix intérieure, la paix que Dieu nous donne, on peut chercher de plein de façons différentes, mais je vous invite ce matin à tourner. On a un verset clé qui est dans Jean 14, 27. Je vous invite à tourner dans Jean chapitre 14 au verset 27. Alors, tous ceux qui cherchent la paix, on doit faire face à la déclaration de Jésus dans Jean 14, 27. afin de se construire une image juste de c'est quoi la paix? C'est quoi la paix intérieure? Qu'est-ce que Jésus déclare sur la paix? Et dans Jean 14, 27, il dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, mais que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et pour comprendre un petit peu, si on lit le verset 26, juste avant, Jésus leur dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et il fait une transition, il dit, « Le Consolateur, l'Esprit que le Père va vous envoyer, va vous rappeler ce que je vous ai dit, et voici, je déclare, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. » Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un chemin difficile ensemble. Un chemin difficile d'une foi complète, entière et ancrée dans l'œuvre de Jésus, dans l'œuvre de Christ. La paix intérieure qui nous est donnée ici, la paix qui nous est donnée par Jésus, c'est pas quelque chose d'humain. C'est impossible que vous ayez cette paix-là si elle ne vous est pas donnée par Dieu. Et la définition de la paix de Jésus n'est pas la même chose que le Larousse nous donne. J'aimerais vous amener dans un chemin extrêmement tortueux et difficile qui est celui d'être en paix avec Dieu. Vous savez, quand on lit l'Épître aux Romains, on arrive au chapitre 3 et il décrit, en fait, Paul décrit le péché, il décrit les hommes. Et quand on arrive au chapitre 3, il prend le temps de souligner, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Yes! Et là, on arrive au verset 17 et il dit, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. C'est nous, ça. C'est tout le monde, sans Dieu, on ne connaît pas le chemin de la paix. Je peux pas vous parler d'un chemin vers la paix. Je ne le connais pas. Je suis incapable. Je suis un aveugle, pas de compas, son GPS mort, qui essaye de vous dire comment vous rendre à quelque part. Que je sais même pas c'est quoi. Parce que je ne l'ai jamais vécu. Et là, on lit, et c'est à la mode, les livres sur la paix intérieure, que Dieu veut t'aider, puis Dieu veut enlever toutes tes choses. Vous allez voir, on va aller parler, on va en regarder ensemble. Qu'est-ce que la paix de Dieu? C'est pas l'absence de problème. Si vous êtes venu au Seigneur, puis là, vous êtes ici ce matin, puis vous dites, j'espère que le preacher, il va m'aider à trouver une meilleure façon de trouver la paix dans ma vie. Oui, mais non. Parce que vous pouvez pas la trouver. Comme moi, je peux pas vous donner quelque chose que j'ai pas. La paix intérieure nous est donnée par Jésus. Et pour aller un petit peu plus loin, si vous tournez dans l'Évangile de Jean au chapitre 15, verset 5, quand il parle, je suis le tronc, vous êtes les branches, en bon québécois. Il finit le verset, il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc, dans votre quête de paix, on va se baser sur cette déclaration de Jésus qui nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et là, on va aller encore un peu plus loin. Verset, chapitre 14, verset 27, notre verset thème, Jésus nous donne sa paix. Alors, ce matin, on va chercher à comprendre la paix intérieure qui nous est donnée. Et là, je vous dis, on n'est pas dans une quête mystique, on n'est pas dans des étapes de méditation ou de changement de vision. On ne sera pas non plus en train de vous donner des étapes où je ne vous dirai pas quoi enlever de votre vie ou quoi installer. Je vais vous parler de la personne et de la présence de Dieu dans votre vie. Parfois, on connaît Dieu. On lit la Bible, et pendant des années, on se fait une vision qui est la nôtre, qui n'est pas, peut-être pas toujours ancrée dans la parole. Et c'est toujours, si on lit dans la parole de Dieu, psaume 119, 71, qui nous dit « Il est bon pour l'homme d'être humilié. » Lamentation, Jérémie nous dit la même chose. « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. » Et quand on cherche la parole de Dieu, c'est bon parfois d'être humilié. C'est bon parfois d'attendre et de laisser Dieu nous parler. Connaître Dieu, c'est la base pour avoir la paix. Mais j'aimerais vous apporter aussi cette vision que Dieu avait dans l'Ancien Testament de cette paix, de ses actions. Dans Deutéronome 29, il nous dit au verset 4, « Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir ou des oreilles pour entendre. » Alors, on doit faire attention dans notre vie chrétienne d'être pleinement capable de voir et de comprendre et d'entendre. Et remarquez, j'ai mis le verset là parce qu'il dit, c'est l'Éternel qui doit vous donner la vision. C'est l'Éternel qui doit vous permettre de voir. Et un petit peu plus loin dans le texte ce matin, il nous parle il y a un verset que je veux souligner, qui est le verset 19. Deutéronome 29, 19. Qui nous parle de cette idée de paix. Qui nous parle de cette idée de chercher la paix selon mes propres points. Deutéronome 29, 19, qui nous dit, je ne vais peut-être pas le lire au complet, mais qui dit que personne ne dise en son cœur, j'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur. Que personne ne dise en son cœur, j'aurai la paix, même si je suivais les penchants de mon cœur. Et là, si vous ouvrez votre téléphone que je sais que vous avez, que vous cherchez sur Google pour trouver la paix, vous allez probablement trouver plusieurs méthodes chrétiennes ou non qui vont vous parler de la paix intérieure. Et là, vous allez sans doute voir des choses comme bien utiliser ton énergie ou la recanaliser ou méditer plus ou méditer mieux. Vous allez peut-être même découvrir des choses comme changer ta façon de penser. Et la plupart des réponses humaines vont vous encourager à vous tourner vers l'intérieur, à faire un filtre. Enlève ce qui n'est pas bon. Puis ce qui n'est pas bon, c'est toi qui vas le décider parce que tu vas avoir médité, puis là, tu vas avoir regardé dans ta vie qu'est-ce qui te dérange. Et puis là, tu vas dire, non, ça, je n'en veux pas. Et puis là, si tu es chrétien, tu vas peut-être dire, au nom de Jésus, je n'en veux pas. Et là, on va regarder à l'intérieur de nous. Et on va être capable, en tant qu'humain, de mettre sur pied un plan qui va fonctionner et qui va marcher afin d'être plus heureux. On va utiliser notre temps d'une meilleure façon. On va filtrer nos amis. On va enlever des choses. C'est drôle, on parlait de qu'est-ce qu'on allait faire comme jeune dans le groupe jeune adulte. Et puis tout le monde a dit, moi, je vais arrêter Facebook. Je dis, amen, good job. Hein? Et là, tout le monde dit, ah oui, je perds trop de temps ça. Et on est capable de faire un filtre. C'est facile de faire un filtre. Comme c'est facile d'être légaliste. Hein? C'est facile de mettre des barrières en tant qu'être humain. On aime ça, les barrières, même si on ne veut pas se le dire. On aime ça, mettre des choses sur pied qui fait qu'on se sent capable et en contrôle. Et c'est ça que le monde va nous parler. Filtre des choses, regarde ta vie, regarde si tu es ce que tu veux, si tu n'es pas où tu voudrais être. Projette-toi dans l'avenir, dans 5 ans, où est-ce que tu aimerais être? Et puis là, mets des choses en place. Hein, c'est ça qu'on entend partout. Et on le dit, on est dans les milieux chrétiens, puis on fait la même chose. Est-ce que tu es où tu veux dans ta vie? Non. Puis là, on rajoute, est-ce que tu es où tu veux dans ta vie chrétienne? Non. Puis là, on se sent coupable, hein? Puis on dit, OK, qu'est-ce que tu penses qui te manque? On dit toute la même chose. Faudrait que je lise plus ma Bible. Faudrait que je prie plus. Faudrait que je passe plus de temps à prier. Et puis là, on se dit, OK, maintenant, on va mettre des choses sur pied pour arriver à ça. On n'est-tu pas bon, pareil? Hein? Non, mais pour vrai, là, on peut se flatter comme ça. Hein? Puis plus on est chrétien, plus on a une bonne bédaine. Là, on peut se flatter le nombril comme faux. Et on se projette. Et là, on se fait des objectifs. Et j'aimerais vous dire, c'est pas mauvais, mais ce n'est pas la paix de Dieu. Ça ne vous apportera aucun soulagement à long terme. Parce qu'à court terme, là, c'est beautiful. C'est tellement... Oh, ça fait du bien, j'ai enlevé des affaires qui ne servaient à rien. Merci, Seigneur! J'ai plus de... Je perds plus mon temps sur Facebook, YouTube, Instagram. Puis là, j'ai du temps! Et puis, je ne sais pas quoi faire avec, Seigneur. Et là, on se dit, j'ai réussi la première étape. J'ai fait de la place. Donc, je vais aussi réussir la deuxième étape. Maintenant, je vais lire plus. Je vais prier plus. Et puis là, on va réaliser qu'on manquait de sommeil. Et puis là, on va dire, quand je lis ma Bible, je m'endors. Quand je prie trop longtemps, je m'endors. Quand je cherche la face de Dieu en prière, je m'endors. Oh, j'avais probablement besoin de repos, Seigneur. Et là, on va se dire, qu'est-ce qui me manque? Pourquoi je ne suis pas capable de faire ça à long terme? Jésus a dit, je vous donne ma paix. Jésus affirme donner une paix qui n'est pas humaine à tous ceux et celles qui le suivent. C'est une promesse qui définit les barèmes de ce que nous pouvons espérer. Si vous regardez Jésus dans la Bible et vous dites, je ne serai jamais capable de faire ça, il vous donne cette paix-là. Il vous donne une paix que vous n'avez pas accès par vous-même. Et cette affirmation-là nous relie spécialement à l'Esprit-Saint. Parce que c'est par la puissance de l'Esprit que nous avons cette paix, que nous sommes capables de nous rappeler ce que Dieu nous dit. Si vous lisez le verset 26 de Jean 14, il dit « Je vous enverrai le Consolateur ». En fait, le Père vous enverra le Consolateur. Et dans Jean 17, Jésus dit qu'il enverra le Consolateur pour nous. C'est l'Esprit Saint qui peut travailler dans votre vie. Et puis là, vous dites, Baptiste en avant, il dit qu'il faut que je sois dans l'Esprit. Ben oui. Dans notre compréhension de la paix que Jésus nous donne, j'aimerais vous amener dans cette réalité-là. Il y a un autre verset qui parle que Dieu nous donne la paix. Il se trouve dans Ésaïe 53. Je vous invite à tourner dans Ésaïe, au chapitre 53. Parce que parfois, on se dit, « Ah, oh, Jésus est tellement fin, il nous donne la paix, c'est tellement merveilleux. » Et on est dans le chapitre 53 qui décrit le Messie souffrant. Et on pourrait le lire au complet parce que c'est tellement un beau texte. Mais on va lire les versets 2 à 5. En fait, du verset 1 à 5, les cinq premiers versets qui nous disent « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, il était brisé pour nos iniquités. Et regardez ici, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La paix que Jésus nous donne, c'est un châtiment qu'il a porté à notre place. La paix de Jésus n'était pas gratuite. Elle a coûté sa vie, son sang, l'humiliation totale. Regardez, méprisé et abandonné des hommes, c'est la paix de Dieu. Un homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, c'est la paix de Dieu. Nous l'avons dédaigné. On a dit « wesh » en bon québécois. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, c'est de nos souffrances. Et là, quand on parle de paix, qu'est-ce qu'on dit tout le temps? Ah, moi, si je t'en paix, c'est parce que je ne souffre pas. C'est ça que le monde vous dit. Si tu souffres, tu n'es pas en paix. Et pourtant, Jésus porte nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est sur lui. Donc maintenant, on va prendre le chemin difficile d'accepter que sans Christ, il n'y a pas de paix. Et qu'il n'y a aucun programme, même si le nom de Jésus est donné dedans, qui vous donne la paix. Seulement l'œuvre complète et parfaite de Jésus. Rien ne peut sauver mon âme. Rien que le sang de Jésus. Le prophète Ésaïe est en train d'exprimer un mystère ici. Le mystère du Messie qui souffre. Et si vous êtes un peu juif dans votre tête, vous êtes capable de comprendre que ça fait aucun sens pour un juif. Parce que le juif s'attend à un nouveau David. L'homme blond, guerrier sur son cheval blanc qui vient détruire les Romains puis amener la paix dans le monde. Plus personne souffre, tout le monde mange à profusion, la paix, la paix, la paix. Plus de guerre, plus rien. Les Juifs sont numéro un, tout le monde est circoncis, c'est génial. Et on arrive dans Ésaïe 53 et ça prend une tangente. À partir d'un certain point dans Ésaïe, il commence à bombarder le lecteur que Dieu veut faire la paix avec lui. Que Dieu cherche à apaiser les hommes qui sont dans le chaos total. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Mais Dieu veut faire une justice de paix. Ésaïe 32, 17, un petit peu plus tôt, avant ces versets-là, ça nous dit « L'œuvre de justice de l'Éternel sera la paix. » C'est l'œuvre de justice de l'Éternel qui sera la paix. Un Dieu trois fois saint, 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 saint est l'Éternel des armées, qu'on voit dans Ésaïe chapitre 6, quand Dieu l'appelle. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal, il prépare une œuvre de justice qui sera la paix. C'est impossible à l'homme et c'est improbable si on ne croit pas et qu'on ne connaît pas le Dieu de la Bible. Éphésiens 2, 14 nous dit, en parlant de Christ, « Il est notre paix. » Et quand vous lisez le Sermon sur la montagne, Jésus vient établir des choses qui transcende notre capacité à comprendre. Si vous tournez dans Luc au chapitre 6, Luc 6, c'est la version de Luc du Sermon sur la montagne. Et Luc 6, on va au verset 22. On pourrait lire du verset 20 jusqu'au 22. Mais je pense qu'on va le faire. On va lire Luc 6, 20 à 22. Luc 6, 20 à 22 qui nous dit « Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. » Regardez ici au verset 22. « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, qu'on vous outragera, qu'on vous rejettera et qu'on regardera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Les gens vont vous détester, détester votre nom, et vous allez être heureux, et vous allez tressaillir. Ça veut dire faire genre, ouhou! Je vais tomber en plus. Il faut être en forme pour tressaillir de joie pour le Seigneur en passant. Mais non. Heureux serez-vous. Et là, ce n'est pas une description de la paix que j'aime. Hein? Aimez-vous ça? Il y a rien, bon, Zouel. Hey, si tu as ça comme effet secondaire là, d'un médicament, tu le prends pas. Là. Hein, tu vas être pauvre, tu vas avoir faim, tu vas pleurer, tu vas te faire haïr, on va vous chasser, on va vous outrager, on rejettera votre nom et vous allez être heureux. C'est-tu pas intense? Et là, c'est une description de la paix que Dieu vous donne. Beau pitch de vente, Seigneur. Beau pitch de vente. Pas évident, hein? La paix de Dieu n'est pas la paix humaine. Heureux serez-vous, ce n'est pas une joie qui est basée sur ce que je vis maintenant. Et si je regarde les yeux sur ce que je vis maintenant, la paix est difficile à trouver. C'est une paix qui est basée sur la présence de Jésus en moi. La paix de Dieu, c'est la présence de Dieu en vous. La paix qui est en Christ ne donne pas une vie facile. Et là, Léon, on aime tout entendre que Dieu nous aime, puis qu'il veut le meilleur pour nous, puis on entend souvent les clichés « Dieu t'aime et a un plan magnifique pour toi » ou « un plan merveilleux pour toi ». Et c'est vrai, mais c'est pas un plan humain. Et si je vous dis les détails, vous allez dire non merci. Regardez celui qui est l'auteur de notre salut, Jésus. Et là, on va comprendre la paix. Jésus n'avait pas de maison. Jésus n'était pas riche. Jésus n'était pas nécessairement aimé. Et Jésus dit, « Je vous donne ma paix. » La paix qui était dans le Fils de Dieu. Ça ne lui a pas donné une vie facile, là. On vient de lire Ésaïe 53 et Jésus l'a vécu. Il a été haï par ceux qu'il venait sauver. Et là, on peut faire un topo. Dans la vie de Jésus, premièrement, il a été rejeté. Il a été tenté par Satan dans le désert. Il a nourri les foules. Et la foule s'est tournée contre lui. Il a repris les pharisiens et ils l'ont détesté. Il a été trahi par Judas, un des 12 gars les plus proches de lui. Il a été renié par Pierre, 3 fois. Et ça nous dit que Jésus, en train de se faire battre, en train de se faire fouetter, en train de se faire ridiculiser, a levé les yeux et a regardé Pierre. Il y avait une pensée pour Pierre qui est en train de le trahir, qui est en train de le renier. Il a fini par être crucifié. Et nous, on se dit, oh, la paix de Dieu, ça va enlever tous mes problèmes. Mais notre Sauveur, sa paix, elle était là. Jésus était en paix parce qu'il regardait Pierre, qu'il reniait et il l'aimait quand même. Il pardonnait quand même. Jésus, à la croix, a pardonné. Il priait à Dieu, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la paix de Dieu. La paix, elle était là. Jésus n'était pas en panique. Même si dans le jardin de Gethsémané, il suait des grumeaux de sang. Ça, c'est de l'anxiété en bébite, là. Et la paix de Dieu était parfaitement visible en Christ. Est-ce qu'on en veut de cette paix-là? Moi, je dis oui, mais c'est pas gratuit. Et là, on regarde plus loin. Est-ce que Jésus aimait les apôtres? Oui, plus qu'on pense. Et pourtant, tous les apôtres sont morts en martyrs. Est-ce que Jésus aimait les premiers disciples? Plus qu'on pense. Pourtant, des centaines et des centaines et des centaines de chrétiens ont servi de torche humaine à Néron dans sa folie. Et Dieu n'a pas empêché ça. Est-ce que Dieu aimait Étienne? Est-ce que Dieu aimait Étienne? Amen. Et pourtant, le plan merveilleux de Dieu pour Étienne, c'était de faire un des sermons les plus puissants que la Bible a et de se faire lapider. Et pendant qu'il se fait lapider, la paix de Dieu surpasse tout ce qu'on peut comprendre. Il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ils ne comprennent pas. Ils ne te connaissent pas. Est-ce que vous voulez de cette paix-là? Ça vient avec un coût. Es-tu prêt à compter le coût de suivre Christ? Es-tu prêt à avoir une paix qui transcende tout ce que tu peux vivre, que tu ne seras jamais capable d'avoir, excepté si tu t'humilies, que tu viens à la croix et que tu demandes la paix de Dieu? Colossiens 1:20 nous rappelle que Dieu a réconcilié tout homme, faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Ça nous est dit dans la loi mosaïque, ça nous est répété dans Hébreux, et Paul le souligne dans Colossiens. Matthieu 24, c'est un peu la même chose. Ne soyez pas surpris quand le monde va vous haïr à cause de Jésus. Pourquoi? Pourquoi les gens détestent tellement cette paix qui est complètement disponible en Christ? Pourquoi les gens la détestent? Parce que notre cœur est mauvais. Mon cœur est mauvais. Et ce matin, je veux vous apporter à voir ce chemin difficile qui est celui de rester en Christ, près de lui, sous son Saint-Esprit, peu importe ce qui arrive dans votre vie. On est trop confortable. Moi, le premier. Je suis trop confortable avec ma vie. Et dans le confort vient souvent la paresse ou, si je ne suis pas conscient que j'ai un besoin, j'irai jamais chercher la solution. Pourquoi tant de gens meurent du cancer? C'est parce que souvent on le trouve trop tard. Et j'aimerais vous amener un peu cette vision. Parfois, quand on regarde la paix de Dieu, quand on regarde la paix, on se dit, comme je vous ai parlé au début, je dois combattre mon péché. OK? Et là, on est capable de mettre sur pied plein de choses qui sont bonnes. Et là, on est capable de faire des stratégies. Mais j'aimerais vous appeler un peu à peut-être changer votre perspective et vous rappeler que le combat premier que vous menez, il est de rester près de Christ, de rester au pied de la croix. Parce que j'ai une question pour vous. Qui pardonne vos péchés? Qui vous donne la victoire sur le péché? Et comment Jésus vous a-t-il appelé à combattre? Notre combat est d'abandonner nos péchés à Christ. Qui a le pouvoir de pardonner le péché? C'est Dieu seul. Qui a la capacité d'avoir la victoire sur le péché? C'est Jésus seul. Et donc, si on commence tellement, et quand on est chrétien et qu'on commence et qu'on rencontre le Seigneur, et là on réalise que je suis pécheur, que j'ai besoin du Seigneur dans ma vie, que j'ai besoin qu'il me lave, qu'il prenne mes péchés, qu'il les enlève, qu'il me donne sa vie, j'ai besoin de lui, et sans lui je ne peux rien faire. Et là on commence tout comme ça. Et si vous n'avez pas fait l'expérience d'abandonner vos péchés à Dieu, de les confesser, de lui demander son pardon, je vous encourage à le faire. Maintenant, ne pas laisser rien entre vous et Dieu. Mais une fois qu'on a fait ça, souvent, on lit dans la parole de Dieu qu'on doit s'éloigner du péché, qu'on doit... Et là, on prend sur nous-mêmes, en tant qu'être humain, qui veut plaire, qui veut être performant souvent, et qu'on veut être capable d'arriver à quelque chose, on se dit, moi, Seigneur, on fait comme Pierre, hein? Ah, oh, les autres peut-être, mais moi, là, moi, Seigneur, on va l'avoir. Et puis, soit on tombe dans l'oisivité parce que c'est pas super long qu'on se rend compte que c'est impossible, ou on devient légaliste et là, on met d'autres barrières, et puis là, on essaie de se faire une capacité. J'aimerais vous appeler à réaliser ce matin que le combat chrétien pour la paix est en deux phases. Je suis premièrement appelé à chercher Dieu. Cherchez d'abord le royaume et toutes ces choses vous seront données aussi. Je suis appelé à chercher Dieu, à chercher sa proximité, sa direction et son amour. Ensuite, alors que je suis pleinement connecté avec Dieu, je suis appelé à vivre et à exprimer ma foi. Pas dans l'autre sens. Je ne suis pas appelé à vivre ma foi pour me connecter avec Dieu. Je suis appelé à me connecter avec Dieu, à chercher à être près de lui, à prendre tous les temps possibles pour trouver sa face en prière, en lecture, en méditation. Je suis appelé à prendre toutes les opportunités d'exprimer ma foi, d'en parler aux autres, parce que c'est à travers ces choses-là que l'Esprit Saint va travailler en nous. On doit mettre la bataille à la bonne place. Notre bataille, elle est spirituelle. Notre bataille, elle est contre la chair, le monde et Satan. Et on serait déjà incapable de juste combattre notre chair. On est déjà tout pourri. Moi le premier. Tu n'es pas capable de combattre ta chair. Dieu, oui. On serait déjà dans le trouble si c'était juste ça, mais en plus, il y a le monde puis Satan. Mais là, Seigneur, c'est quoi cette affaire-là? C'est parce que la réalité, c'est que vous n'êtes pas apte au combat. Vous n'êtes pas un guerrier. Et la plupart des chrétiens, moi le premier, j'ai une trop grande opinion de moi-même. Et je pense être capable d'avoir des victoires sur certains péchés de ma vie par moi-même. Je ne regarderai pas, je ne ferai pas ça. Et puis là, je suis capable de me comparer aux voisins, de faire comme, bon, ben lui, ben meilleur que lui. Merci Seigneur. Et là, on devient comme le pharisien qui regarde le publicain, qui se frappe la poitrine puis qui dit, Seigneur, je ne suis pas digne d'être ici, pardonne mon péché. Puis là, on devient comme le pharisien qui fait comme, merci Seigneur que je ne suis pas comme lui. Et puis là, on lit le pharisien qui fait ça, mais on fait comme, quel pas bon. Ah, il n'a rien compris à la grâce. Et puis là, salut, je fais pareil. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des choses qui sont bien plus fortes que nous. Et là, on veut se battre par soi-même. Et on oublie qu'on a le Dieu victorieux qui est toujours et constamment disponible. La lutte qu'on a, mes frères et sœurs, la lutte que j'ai, c'est de croire qu'en tout moment, peu importe ce que je fais, Dieu m'aime et il m'accepte et jamais il ne va me revirer de bord. Jamais il ne va vous virer de bord si vous venez confesser vos péchés, demander pardon et implorer sa grâce. Jamais il ne va vous virer de bord. J'ai eu une expérience cette semaine, et là ça sonne bizarre, mais j'étais avec quelqu'un et là je lui dis, il dit, ah, j'ai un problème avec un péché, puis là il voulait pas le nommer. Je lui dis, j'ai tout mon temps. Ça lui a pris environ 20 minutes être capable de nommer son péché. Et là, je lui disais, pourquoi? Il dit, pas j'ai honte. Je ne veux pas le dire. Et on est tous de même. On est tous pareils. On oublie combien Dieu est bon. Combien Dieu fait une œuvre de paix dans votre cœur qui surpasse tout ce que vous pouvez comprendre. Et si Dieu ne vous choque pas par son amour et sa grâce, c'est parce que vous avez une vision de Dieu qui est fausse. Parce que Dieu va encore pardonner ce que vous, vous pensez qui est impardonnable. Dieu va encore aimer celui que vous dites, c'est impossible que cette personne-là soit aimée. Dieu l'aime encore, Dieu pardonne encore, et Dieu donne encore son Esprit Saint. La personne qui vous fait le plus de mal, Dieu veut encore l'aimer. Dieu est mort pour lui, Jésus est mort pour lui, et il va l'accueillir si il le demande. Et là, on se ramasse tous comme des Jonas. On est complètement conscient que Dieu est bon, mais des fois, il y a du monde qui nous gosse. Puis là, on va s'asseoir à côté de notre rincin, puis on regarde, puis on attend que Dieu détruise la ville. Puis là, quand Dieu la détruit pas, on est comme... Moi, le premier en passant. La paix que Dieu nous donne commence par se battre avec soi-même. Le combat qui est présent quand je commence à voir mon péché, je vais le combattre en m'accrochant au Seigneur, en allant à lui, en lui confessant, en lui donnant. Et là, quand je vais avoir fini de me battre avec ce péché-là, la paix de Dieu qui m'est donnée par l'Esprit Saint me dit que l'Esprit va m'en montrer un autre. Et puis là, je vais être obligé de faire la même chose, aller au Seigneur, confesser, prier. Et peut-être que celui-là va être trop grand pour moi. Et puis là, on utilise des textes comme « Le Seigneur ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais en toute chose, il prouvera un moyen d'en sortir. » Et là, on se dit « Si c'est trop grand pour moi, ça vient pas de Dieu. » Non, ça vient de Dieu, mais Dieu vous donne un moyen d'en sortir. Son Fils. Il vous donne l'Église. Il vous donne des frères et sœurs. Et là, on est appelé à abandonner nos péchés. À abandonner la lutte futile de mes efforts à combattre le péché et à m'accrocher pleinement à Dieu. Et là, la paix de Dieu va prendre le dessus. Et là, on va voir les péchés. Et là, on va comprendre que la paix de Dieu n'est pas l'absence de lutte. La paix de Dieu n'est pas l'absence de souffrance. On va comprendre que la paix de Dieu n'est pas l'abondance d'argent. La paix de Dieu est Christ. Et tous les témoins qu'on a dans la Bible, les gens souffrent pour Dieu. Les gens luttent avec leurs péchés, se repentent, regardent à Christ et crient. Et parfois, il y a un silence. Je vous en conjure. Si vous priez le Seigneur et puis vous n'avez pas de réponse, vous dites, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Priez plus. Lancez des roches dans la fenêtre du Seigneur quand vous pensez qu'il vous écoute pas. Cognez à sa porte. Allez chercher un ami pour qu'il vous aide à crier assez fort pour que le roi des rois entende votre plaidoyer. Faites comme la veuve qui harcelait constamment le juge inique. Et rappelez-vous que Dieu vous aime. Rappelez-vous qu'il ne vous tournera pas, il ne vous rejettera pas, il va vous accepter et vous aimer si vous demandez pardon. Et il n'y a rien de ce que vous pouvez faire qui fait que Dieu vous aimera plus. Il y a plein de choses que vous pouvez faire qui vont faire que vous le sentirez plus, que vous le croirez plus, que votre confession va être faite dans votre bouche, mais que deep down, au plus profond de vous-même, le mot n'est pas là. Et je vous invite à lire dans les 5 premiers versets du livre d'Ésaïe au chapitre 27, où l'Éternel dit, « Voici le jardin, je le garde, je le protège. Et si je vois des ronces à l'intérieur, je vais les détruire. Mais sachez, il n'y a point de colère en moi. Mais s'il y a des ronces, je vais les détruire. » Et ça sera pas le fun, parce que les racines sont profondes. Les racines sont profondes. Mais Dieu vous aime et il veut vous amener à ressembler plus à Christ. Et ressembler plus à Christ, c'est pas que votre vie aura plus de problèmes. Le Seigneur a vécu juste ça, des problèmes, quasiment. Mais il était pleinement en paix. Il avait une mission. Il savait sa mission depuis le début des évangiles jusqu'à la fin et à l'accomplissement. Et ultimement, dans le livre de l'Apocalypse, on voit qu'il est victorieux. On voit que notre paix, que maintenant ici on lutte pour s'accrocher à Dieu, va être complète. La lutte est finie, le Seigneur est présent, je le vois, je le suis, je peux l'adorer pleinement. Mais ici, c'est difficile. Et le combat qu'on a ici, que moi j'ai, que tu as, c'est le combat de ton cœur. Je trouve extrêmement difficile de vouloir Dieu plus que tout. Je me le confesse, c'est difficile. Parce que mon cœur n'aime pas Dieu, excepté si Dieu m'en donne la capacité. Mon cœur va toujours se porter sur lui. Et mon cœur va toujours se satisfaire de petites niaiseries qui vont prendre la place de Dieu. Ton cœur va toujours se satisfaire de petites niaiseries qui veulent prendre la place de Dieu. Et là, parfois, on se dit, mais c'est pas tellement grave, c'est cute, ça me fait du bien, puis là, on veut croire n'importe quoi. Mais si Dieu veut enlever une racine dans ton cœur qui est ancrée profondément et qui te brime, qui te détruit sans que tu t'en rendes compte et qui commence à tirer dessus, je sais pas si vous avez déjà essayé d'enlever des racines d'une plante qui a des racines profondes, là. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais moi, j'ai déjà essayé. Et j'ai déjà eu, parce que mes parents ont un grand jardin, et puis là, à un moment donné, ils enlevaient des mauvaises herbes. Et croyez-moi ou pas, je voyais mes parents tous les jours enlever de la mauvaise herbe. Tous les jours! Sinon, on n'avait pas de légumes. Et puis, à un moment donné, avez-vous déjà essayé de vous débarrasser des pissenlits? Moi, j'ai abandonné, je passe la tondeuse dedans. Savez-vous ce qui arrive quand je passe la tondeuse dedans? Il y en a plus! Et là, ce que je veux vous dire comme exemple, c'est que si votre vision de combattre pour Christ et de vous débarrasser de vos péchés, c'est prendre votre tondeuse ou votre tracteur à gazon ou une faucheuse de 23 pieds de large, pour ceux qui connaissent un peu les fermes, et là, d'aller passer dans votre jardin de pissenlits puis de dire, après avoir fait le tour, faire, il y en a plus, faites une bonne job. Mais ça, c'est combattre par la chair. Puis je vous laisse comprendre les résultats. Si vous voulez un exemple, vous viendrez chez nous, je n'ai pas appris, je passe quand même la tondeuse dedans. Mais ici, j'aimerais vous amener un encouragement. Vous avez le meilleur partner que vous pouvez avoir. Dieu vous donne l'Esprit Saint de Dieu. Et j'aimerais aller plus loin, j'aimerais vous dire que vous êtes protégés par la Trinité complète de Dieu. Dieu ne laisse aucune facette de votre vie non protégée, à moins que vous couriez le plus loin possible que vous pouvez. Et il vous protège encore, que vous le sachiez ou non, que vous le croyez ou non. Peu importe aussi loin que tu vas, comme dit Paul, ni la profondeur, ni la hauteur, ni rien ne peut m'éloigner de Dieu. Il est encore là. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de conséquences, mais sachez que vous êtes gardés par la Trinité complète. Jésus demande au Père dans sa prière sacerdotale, c'est dur à dire, hein? Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. Donc le Père vous garde. Jésus est mort et Jésus nous purifie constamment. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et l'Esprit Saint nous scelle et nous console. Si vous cherchez une consolation dans autre chose que l'Esprit Saint, vous allez avoir une consolation temporaire. Si vous cherchez dans la personne de Jésus, dans l'Esprit Saint et dans la prière et au Père, vous allez être pardonné. Quelqu'un qui veut suivre le Seigneur doit comprendre que mes affections personnelles passent en deuxième et que je dois me soumettre à ce que Dieu aime. Et si vous lisez un petit peu la parole, vous allez voir rapidement que ce que Dieu aime, c'est son Fils. Ce que Dieu aime, c'est la sainteté. Ce que Dieu aime, c'est qu'on prenne soin les uns des autres. Ce que Dieu aime, c'est qu'on confesse nos péchés afin qu'il puisse nous les pardonner. L'autre facette du combat qu'on doit vivre, c'est de croire. C'est une chose de confesser. On est chrétien. C'est une chose de confesser que je crois ce que la Bible dit. C'en est une autre de le croire et de le vivre. Et on est tous appelés à s'encourager là-dedans. C'est une chose de dire qu'on est chrétien. Parfois, ça peut être difficile. Mais si je cherche mon bien-être personnel, que je m'attends à ce que Dieu enlève mes problèmes, que je m'attends à ce que Dieu vienne me combler de tous mes besoins que je vois moi-même, je me trompe. Je crois un évangile qui n'est pas biblique. Je me suis créé un évangile. Je veux réitérer avec vous, Dieu aimait son Fils. Jésus était rempli d'une paix qu'on ne peut pas connaître, et il nous la donne avec abondance. Pas comme le monde donne, mais avec abondance. Pourtant, le plan de Dieu pour lui, qui lui apportait une paix, mais qui n'était pas facile, c'était de mourir sur la croix, de porter nos péchés et de ressusciter. Je vous ai déjà fait ce petit topo-là, mais je peux le répéter. Le plan de la vie, le plan de Dieu pour Jésus, qui nous donne sa paix, c'était d'être trahi par un des 12, renié par Pierre. C'était le plan de Dieu pour Étienne, c'était d'être lapidé. Le plan de Dieu pour Paul, c'était d'aller prêcher, mais de faire des naufrages, d'être battu, d'être lapidé et finalement de mourir décapité. La paix de Dieu habite le croyant. Elle lui permet de passer au travers n'importe quoi. La paix de Dieu commence par accepter la vision de Dieu sur ce qui est bien et mal, la vision de Dieu sur ce qui est péché, le plan de Dieu qui est la confession et de demander pardon, La paix de Dieu commence au pied de la croix alors qu'on est brisé par nos péchés, alors qu'on est contrit, alors qu'on ne sait pas où aller, qu'on ne sait pas quoi faire. Le plan de Dieu commence là, au pied de la croix, en Christ. Il se continue au pied de la croix en Christ. Et votre combat, c'est de tenir la croix à deux mains pendant que le monde vous tire par les pieds, pendant que le monde vous tire des roches, pendant que le monde vous dit « Abandonne, t'es niaiseux, ça n'a pas de bon sens, t'es faible si tu crois à ça. » C'est votre combat. Je vous dis, des fois, ce serait plus facile de se faire tirer des roches. Mais non. Ils vont s'attaquer à votre personne. T'es pas intelligent si tu crois ça. Ils vont s'attaquer à votre valeur de vous-même. Voir que tu crois que tu n'as pas assez de valeur. Voir que tu fais ça. Voir que tu as besoin de quelqu'un d'autre. Ils vont s'attaquer à qui vous êtes profondément. Le monde vous hait. Il vous déteste. Et s'il pouvait, il vous ferait taire. Il vous tuerait. Il prierait pour que vous soyez ressuscité, puis il vous retuerait encore. C'est ce que le monde veut faire. Et nous, on l'oublie. On se dit, mais il donne des choses tellement le fun. Je ne vois pas comment ça peut me faire des problèmes, Seigneur. Et pourtant, le combat pour la paix commence au pied de la croix. Il se continue au pied de la croix et se termine quand vous mourrez. Il n'y a pas de break. Il n'y a pas de break. Si vous partez en vacances, amenez votre Bible. Je sais que je parle de vacances au mois de mars, mais quand même. Ne prenez jamais de pause de Dieu. Agrippez la croix. Demandez-lui de vous montrer sa vision sur toutes vos luttes. Et là, quand vous allez lancer des roches dans la fenêtre de l'Éternel, que vous allez crier à sa porte pour qu'il vous entende, pour qu'il vous fasse justice, sachez que votre prière va commencer d'une façon et va se terminer d'une autre façon. Dieu a un plan pour vous. Ce n'est pas celui que vous pensez. Ce n'est pas celui que je pense. Dieu t'aime, veut t'amener à ressembler à Jésus et veut que tu aies une paix abondante qui va au-delà de tout ce que tu peux espérer. Et l'Épître aux Romains nous amène un petit point ici. Romains 5, 1. « Étant donc justifiés, nous avons la paix avec Christ. » L'élément de croire pleinement ce que Dieu a fait pour nous, il y a aussi l'élément d'imputation qu'on ne prendra pas trop de temps. Mais est-ce que vous croyez vraiment que Dieu vous donne la vie de Christ? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il a pris votre vie de bouette, qu'il a pris ta vie remplie de péchés que tu connais personnellement? Est-ce que tu crois vraiment dans ton cœur? Est-ce que c'est la base de ton approche du Seigneur? Que Dieu a pris ta vie et il l'a donnée à Christ. Et qu'il a pris la vie de Christ et il te l'a donnée. Et que tu, devant Dieu, es pur. Si tu te sens dégueulasse, si tu te sens pas propre, si tu te sens abandonné, sache que Dieu veut te donner la vie de Christ. Une vie qui a une paix au-delà de tout ce que tu peux vouloir. Qui va toujours t'accepter parce que le Père va toujours accepter le Fils. Sachez que autant le Fils vous aime et est mort pour vous, autant le Père veut vous amener à son Fils. Et autant l'Esprit-Saint veut vous garder pour le Fils. Nous appartenons à Jésus. C'est là notre paix. Nous appartenons au grand roi qui gagne la bataille. Et ça nous dit, et puis je peux inviter les musiciens à revenir, Dieu nous dit dans sa parole, dans Philippiens chapitre 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées. On n'a pas les mêmes distractions que les croyants qui nous ont précédés. On n'a pas la même capacité non plus parfois à s'arrêter parce qu'on a des vies de fous. Et À moins que vous soyez vraiment dans le trouble, j'imagine qu'aucun d'entre vous ici va devoir se battre pour sa survie aujourd'hui. Mais on a un combat qui est différent. Et je vous le répète, la paix de Dieu se trouve en s'accrochant à la croix. La paix de Dieu ne sera pas qu'il va vous donner tout ce que vous voulez, un char, un beau compte en banque, une maison, une femme, un mari. La paix de Dieu n'est pas dans les choses matérielles et la paix de Dieu n'est pas non plus ancrée dans vos capacités à trouver une paix intérieure. Ils sont ancrés profondément dans l'amour de Dieu. Allez au pied de la croix, pleurez, implorez le Seigneur de vous donner cette paix, de vous habiter de l'Esprit-Saint, de vous humilier et de vous relever. Sachez que la lutte ne sera pas facile et il y a une grande, très grande chance qu'à un moment donné, dans le combat, vous soyez découragé. Mais continuez à vous accrocher à Dieu et vous allez avoir la paix de Dieu que vous trouvez à la croix et qui est vôtre. Jean 14, 27. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde. Je suis mort pour vous donner cette paix et je suis ressuscité pour vous assurer ma présence. On n'a besoin de rien d'autre. Que Dieu bénisse sa parole.